Hey, salam alaikum. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le Miracle Fresh du podcast et je ne suis pas seule. J'ai l'honneur, j'ai le plaisir de recevoir Asia, Asiatique, pour celles qui la connaissent sur les réseaux sociaux. Alors, comment vous dire que cet épisode de podcast est un épisode miraculé parce que c'était le parcours du combattant, mais je suis hyper heureuse parce qu'aujourd'hui, on a pu se capter. Et surtout, vous ne le savez pas, mais j'ai eu le plaisir. En fait, on devait enregistrer un épisode de podcast il y a quelques soirées. De là, il y a 2 3 nuits, et en fait on s'est retrouvés, tout allait bien, on a commencé à papoter, et en fait on a fait que papoter. Donc au lieu d'enregistrer, on n'a pas mis play, on n'a pas mis enregistrement, on a fait que parler. C'était trop trop bien. Et aujourd'hui je suis généreuse, je suis pas égoïste, je la partage avec vous. Salam Asia, comment vas-tu?
Wa alaikum salam Oumaima. Bah écoute, ça va très bien. Je suis extrêmement honorée et ravie d'être là. Franchement, je sais pas par quel miracle on a réussi vraiment à enregistrer ça, en espérant que tu vas pouvoir télécharger ça aussi. Mais en tout cas, je suis très ravie. Merci beaucoup de m'avoir invitée.
Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Asia, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, je pense qu'il y a une bonne partie de mon audience qui te connaît, mais pour celles qui ne te connaissent pas, comment est-ce que tu pourrais, enfin, présente-toi comme tu le souhaites?
Oui, bien sûr. Déjà, salam alaikum à tout le monde, à tous les auditeurs. Alors moi, du coup, je m'appelle Asia. Comment me qualifier? Bon, on va dire que j'ai quitté les bancs de l'école de la République française et je me suis dirigée pour travailler à mon compte. Donc, je suis conférencière, guide touristique à Istanbul et on me connaît surtout en tant que créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, de quoi je parle au quotidien, c'est tout ce qui est lifestyle. Donc, tout ce qui est la vie de tous les jours, les astuces, les conseils. En ce moment, c'est fixé sur les voyages, mais voilà en globalité.
C'est marrant, hein, je ne savais pas que tu étais conférencière et guide touristique en Turquie. Enfin, j'avais suivi un peu ton aventure en Turquie, quand tu t'es installée là-bas, etc. Mais voilà, je ne savais pas que tu avais ces petites casquettes. Moi, j'étais plutôt en mode, voilà, je connaissais la Asia créatrice de contenu, machallah, youtubeuse et tout. Donc, super intéressant. Tu sais, il y a une question, Asia, j'aime beaucoup la poser. C'est qui était la Asia petite fille? Et quelle... Alors, tu es encore toute jeune. Alors, je ne l'ai pas dit, mais tu as 23 ans, hein, c'est ça. Hein?
Oui, c'est vrai que je ne le dis pas forcément, mais oui, j'ai 23 ans, du
Ouais,
coup, je suis un bébé.
machallah. Tu es 23 ans, tu viens de te marier, félicitations. Enfin, ça fait 1 an, mais tu as fait ton... t'as fait, ouais, t'as fait une fête là récemment et tout, donc
J'ai
félicitations
bien
pour ça.
suivi, hein, je suis bien. Oui, c'est
T'as vu,
ça.
ça va. Hein?
Ouais, c'est ça.
Je ne suis pas une fausse abonnée. Hein?
Oui, c'est vrai.
Mais en fait, le truc, c'est que, voilà, donc, même si tu es toute jeune, je voulais savoir, tu sais, qui est la petite Asia, la petite fille, quel rêve elle avait, et finalement, dans ta personnalité, etc., est-ce que tu vois un lien entre la Asia que tu étais et la Asia que tu es aujourd'hui, tu vois, asiatique, et tout ce que tu crées, etc. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Je pose cette question, par exemple, parce que, par exemple, tu vois, moi, dans mon cheminement perso, j'étais une petite fille très rêveuse qui aimait trop lire, qui écrivait déjà des petites histoires. Pourtant, quand j'ai grandi, j'ai mis ça de côté en me disant, voilà, je vais être, voilà, j'ai fait un bac S, bref, j'ai fait mes études orthopsie, rien à voir. Et à la fin, je suis tomber aujourd'hui dans ce que j'aime le plus à travers le livre que j'ai écrit. Et du coup, j'aime bien poser cette question pour savoir, est-ce qu'il y a un petit parcours comme ça ou pas, tu vois? Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, bah, c'est vrai que quand je fais un peu une rétrospection, c'est que je vois pas mal de liens. Bah, déjà, depuis petite, je suis pas timide, je suis la fille hyper audacieuse, mais timide en même temps, dans le sens où, voilà, je suis réservée, j'ai mon petit jardin secret comme aujourd'hui, ça bouge pas. C'est-à-dire, ok, on sait un petit peu ce que je fais de ma vie, mais on saura jamais dans les détails, parce que voilà, je garde toujours mon petit jardin secret. Et c'était pareil quand j'étais petite. Étant petite, fan des chevaux, fan d'équitation, et
Ah
encore aujourd'hui, ça change pas. Quand j'étais petite également, bah moi je pense directement à mon grand-père, Allah yarhamo, qui en fait à plusieurs reprises, j'ai jamais compris pourquoi, a toujours fait des rêves, mais je te promets, ça c'est une confidence hein, que je dis, mais a toujours rêvé de moi en me mettant toujours en scène, en fait. Il m'a dit, Asia, tu seras une grande femme. Il me dit, Asia, je ne sais pas. Il me l'a toujours dit. Oui, sinon, il faisait passer le message par le biais de ma mère. Et ma mère, ça l'a choquée. Elle disait, mais je ne sais pas pourquoi. Enfin, on l'appelle Bouali. Il rêve toujours de ça et on ne comprend pas. Et tu vois, ces petits-là, je fais, mais c'est ouf, mais je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est un petit détail, mais voilà, c'est ça que j'ai remarqué qu'il y a un petit lien, quoi. Donc voilà.
C'est beau, subhanallah, par rapport à ce rêve, par rapport à cette intuition en fait qu'il a toujours eu par rapport à toi. Subhanallah, c'est comme si Rabbi lui a montré un petit peu, tu vois, il lui a et il avait ce feeling là, subhanallah. Et ouais, c'est intéressant. C'est sûr que l'équitation, je revois les jolies petites vidéos et tout. T'en as toujours fait depuis que t'es petite? Parce que c'est pas très commun, tu vois.
Oui, c'est vrai. Depuis que j'ai 8 ans, bon, en fait, c'est ma mère. Ma mère, pour information, il faut savoir que c'est une grande sportive. Elle a joué pour la Coupe du Trône au handball, en athlétisme. Elle est très connue, hein, mais j'en parle pas, tu vois. Grande athlète. Et du coup, elle a toujours dit, enfin, elle a toujours voulu que ses enfants touchent un peu à tout. Pour elle, c'était hyper important. Donc, ma mère, elle m'a inscrite au handball. J'étais championne de France de handball quand j'avais 18 ans. Avant de porter le voile, etc. Et puis ensuite, elle m'a inscrit aussi à l'athlétisme. Donc, je faisais la une des journaux de ma région. Et qu'est-ce que je fais? Ben, l'équitation. Et puis l'équitation, bon, j'avoue, j'ai pas eu un niveau de fou. Hein. Pour ceux qui s'y connaissent, j'ai juste un galop 5. C'est quand même un bon niveau, mais voilà. Donc, ça, c'est mon petit côté. Tu vois, c'est la Asia qu'on. C'est Asia et c'est pas asiatique, tu vois. Je sais pas si tu.
Ouais, hey, c'est trop intéressant. C'est trop intéressant, genre, surtout par rapport au parcours de ta mère. Je trouve ça génial. Je trouve ça atypique. Rappelle-moi les origines de tes parents, parce qu'il me semble que tu es turque et marocaine.
Exactement. Donc moi, en fait, je suis née en France. Mon père, il est turc, 100% turc, et ma mère marocaine à 100%.
Mashallah, bah déjà rien que ça, je trouve ça atypique parce que j'ai toujours entendu dire que les Turcs se mariaient entre eux en
Oui.
général.
Ah oui, mais surtout la
C'est rare
génération
quand
de
même
mes
de
parents, c'est
voir.
pas courant. Hein.
Ouais, voilà.
Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de ce mélange, mais à l'époque, ce n'était pas du tout évident. En fait, pour la petite histoire, c'est que j'ai une tante qui s'est mariée. En gros, si tu veux, c'est deux sœurs et deux frères qui sont mariés. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros,
Oui.
c'est deux frères turcs et deux marocains qui sont mariés comme ça. Donc, c'est d'abord ma tante qui a rencontré, du coup, mon oncle. Et en fait, son frère cherchait une femme, mais religieuse. Rien à voir avec les origines, comme on peut entendre aujourd'hui, oui, je veux absolument me marier avec une Marocaine, ou oui, je veux absolument me marier avec un Turc. Ma mère, à la base, de toute façon, par exemple, mon grand-père était contre autre origine que marocain, tu vois, pour ma mère. Et au final, il a vu que bah, il était très religieux, et c'est vrai que, mashallah, dommage, je ne peux pas présenter mon papa, mais quel homme, mashallah. D'ailleurs, qui fait son hajj actuellement avec ma mère. Et voilà. Donc, ouais, c'est vrai que ça s'est fait. C'est très atypique, je suis d'accord, ouais.
Mashallah, mashallah, vraiment qu'Allah accepte leur hajj et qu'Allah nous permette de le faire aussi. Mais ouais, ouais, en fait, je pensais à une amie, tu vois, quand j'étais en école de médecine en P1 et tout ça, qui était avec un Turc qui voulait se marier, pour qui c'était compliqué, tu vois. D'ailleurs, je crois que finalement, ça s'est pas fait. Mais parce que, oui, malheureusement, il y a cette histoire d'origine. Alors qu'en vrai, comme tu as dit, à partir du moment où tu vois le dîn, le bon comportement, machallah, les qualités, franchement, les origines, voilà. Moi, de mon côté, ça va. Mes parents, ils ont toujours été très, très, très ouverts là-dessus. Hein. Voilà, ma sœur l'a épousé un Français converti, mon frère une Algérienne. Enfin, voilà. Nous, on est Marocains. Bon. Bon, bah, écoute, alhamdoulilah, c'était intéressant. Je voulais te demander. Alors là, parce que toi, tu es toute jeune, machin, tu as 23 ans, et pourtant, tu as fait plein de trucs sur le web. Enfin, je trouve que tu as quand même. Voilà, tu as fait un moment que tu crées du contenu, machallah, tu as une grande visibilité, tu as une grande communauté. Je crois qu'on doit être genre à plus de 200 000 sur Instagram.
À
Plus
peu
de...
près.
T'as dit quoi? Pardon?
Oui, je disais à peu près, c'est ça.
Ouais, et plus de 150 000 sur YouTube. Donc, machin, tu as quand même une grande visibilité. Je voulais savoir, mais. Finalement, comment tu t'es retrouvée à faire ce que tu fais, à créer ton contenu? Comment est-ce que tu as démarré? Comment est-ce que tu as commencé tout ça en fait? C'était quoi le... Après, tu as 23 ans, donc je pense que tu es née un peu avec les réseaux sociaux et tout. Enfin, ça fait partie un peu de toi. Tu vois, c'est pas comme ma génération où c'était pas le cas. Ça s'est venu progressivement. Quand j'étais petite, il n'y avait pas Internet. Hein. Comment tu dirais, toi, que ça s'est mis en place?
Alors du coup, bon, je vais essayer d'être la plus brève possible. Donc effectivement, je suis toute jeune, donc j'ai commencé encore plus jeune. J'avais 19 ans, donc à cette époque-là, bah, du coup, j'étais en 2000... Non. 2019, c'est ça, l'année 2019. En fait, c'était une année de gros changements dans ma vie, tout simplement. Donc, gros déménagement, je suis passée d'une région à une autre. Et j'avais vraiment envie de changement. Je commençais à parler un peu à mon entourage, mes copines un petit peu nocives et assez nauséabondes et jalouses, quand je commençais à leur parler de réseaux sociaux. Et en fait, c'était un peu une revanche pour moi où je disais, bon, je tourne une page. Déménagement, changement d'entourage, j'avais mis le hijab, je me souviens entre-temps, et en fait ça a fait un tri dans ma vie, c'était une année de tri. Pour moi c'était vraiment le grand nettoyage cette année-ci. Donc, je me suis lancée dans un premier temps sur Twitter. Donc, Twitter, faut dire, depuis entre 2016 et 2019, 2019, effectivement, j'étais sur Twitter, mais c'était vraiment juste pour rigoler, tu vois. Petit à petit, on m'a demandé des conseils, je ne sais plus par rapport à quoi. Du coup, j'ai ouvert un compte Snapchat public. Et comme tu le sais, sur Snapchat, comment te dire? C'est très éphémère. C'est-à-dire que tu postes quelque chose, ça se supprime 24 heures plus tard. Et bah moi, en fait, je ne trouvais pas ça cool. Je me disais, attends, je fais autant de contenu pour que ça se supprime. Et là, m'est venue l'idée d'Instagram. Mais je trouve qu'Instagram, c'était quelque chose. Hein, s'afficher sur Instagram, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu plus banalisé. 2009, ça restait quand même neuf. Je me suis quand même lancée, donc je comprends pas l'engouement. Je t'avoue que moi-même, je ne comprends pas l'engouement. Je faisais pas grand-chose. C'était quoi à la base? C'était du make-up, c'était du lifestyle. Hein. C'était pas quelque chose de fou, hein, je vais dire honnêtement. Première vidéo que je poste, 100 000 vues. J'ai rien compris, je te promets. Je connais pas d'influenceuse, je connaissais pas ce milieu-là. J'ai posté ça, ça a pris. Bon. Ensuite, j'ai commencé à prendre petit à petit beaucoup, beaucoup d'abonnés, etc. Et beaucoup de filles, en fait, ont vu ma transition parce que je portais le turban et j'ai porté que le voile, tu vois, donc un peu plus, disons, correctement. Et je commençais à recevoir plein de messages de filles qui m'ont dit oh, « Mais tu portes le voile, du coup? Comment ça s'est fait? Comment ça se passe ?» Et ça faisait un an déjà que je portais le turban voile, entre guillemets. Du coup, j'ai voulu bah, apporter forcément mon expérience. Et Instagram, pour moi, n'est pas voilà, le réseau le mieux approprié, on va dire, pour raconter mon histoire. Et donc, viens, je pense que tu sais.
YouTube.
Voilà, c'est ça exactement. Donc, je me suis lancée sur YouTube plutôt 2020. Et là, j'ai fait ma première vidéo YouTube qui m'a littéralement propulsée. Hein. C'est j'ai porté le voile. Non, porter le voile quand on est jeune. Et donc, j'ai raconté et j'ai motivé aussi les filles qui étaient jeunes à le porter. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, en fait, comment te dire j'arrivais pas à m'identifier à une fille. Il n'y avait pas beaucoup de filles qui portaient le voile, qui étaient jeunes sur les réseaux sociaux, à part, je sais, en Angleterre, c'était assez démocratisé, au Canada également, mais en France, c'était pas du tout démocratisé. Et je me suis dit, je vais porter la voix, disons, aux jeunes et les motiver et leur dire que c'est pas un truc de fou. Enfin, finalement, tu vois, je le porte depuis des années. Et c'est vrai que je me dis, c'est banal, disons, entre guillemets. Donc voilà, et puis. Depuis, bah, je partage un petit peu mon quotidien tout en gardant quand même mon jardin secret. Je partage mes passions et voilà.
Oui, c'est vrai. Oui, je crois qu'en plus ta vidéo aujourd'hui, elle doit avoir, je crois, 700 000, 800 000 vues, si je dis pas de bêtises, sur ta
Ouais,
vidéo.
je crois que c'est ça.
Elle a, ouais, machallah, elle a cartonné. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est effectivement, c'est ce que je me suis fait là. En fait, c'est la remarque que je me faisais par rapport à toi. Je me disais, aujourd'hui, tu vois, il y a la génération TikTok, il y a la génération ouais, Snap et tout ça. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fitna, tu vois. Il y a beaucoup de modèles dans le négatif. Il y a beaucoup de pour la jeunesse. Et aujourd'hui, je pense effectivement que quand tu es toute jeune, pour la génération, tu vois, une jeune fille de ton âge qui est là, qui commence à. Bon, aujourd'hui, maintenant, tout le monde est sur les réseaux sociaux, etc. Il y a un danger, c'est que si tu vois que des personnes dans la fitna, qui sont très loin d'Allah, enfin, voilà, quoi, qui te font des TikTok, bon, voilà, quoi. Bah ouais, tu vas être poussé à. Tu vas être influencé par eux, tu auras envie de faire comme eux, tu auras envie de leur ressembler, ça devient eux tes modèles. Alors, certes, il y a le débat un peu de ouais, bah faut quitter les réseaux sociaux, faut quitter TikTok, faut quitter les trucs comme ça. Mais d'un autre côté, ça, c'est un truc que j'ai envie de dire, c'est presque perdu d'avance parce que maintenant, ça y est, tout le monde y est, tout le monde est presque accro. Voilà. Et quand je te vois, toi, tu vois, moi, la réflexion que je me disais par rapport à toi, à ça, c'est que je me disais, elle est toute jeune. Mashallah, elle est charmante, mashallah, elle pourrait en fait, elle pourrait être ces TikTokeuses là comme ça qui ont du succès, qui ont des millions de vues, qui dans la fitna, tu vois, qui se dénudent, qui font des danses machin et tout ça. Et en fait, toi, tu es là et tu montres ta vie du quotidien, tu montres ton lifestyle, tu montres voilà tes passions, en train de faire de l'équitation et tout. Mais en même temps, tu le fais, mashallah, en étant mestour. En t'habillant de manière, on voit pas tes formes, en t'habillant de manière large, en portant le hijab comme il faut, etc. Et du coup, tu transmets, en fait, tu deviens un modèle, machallah, pour ces personnes, et tu leur transmets un message qui est, bah ouais, Tu peux kiffer ta vie, tu peux être comme ceci, tu peux faire, tu vois, tu peux, voilà, tu peux faire les activités que tu aimes, etc., tout en étant voilé, tout en étant habillé mesto, tout en étant, voilà, c'est possible en fait. Et donc, tu deviens un modèle pour cette jeune génération et un modèle dans le bien. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc, tu partages ce lifestyle, etc., ça les attire, ça leur donne envie, ça leur, et tu leur transmets un message en même temps qui est beau, tu vois. Et machallah, et ça, c'est. Je pense qu'on a quand même besoin, enfin, ouais, clairement, je pense qu'on a besoin, tu vois, de modèles comme ça pour contrebalancer, tu vois, tout le négatif. Donc, en fait, toi, tu t'es lancé un petit peu, hein, finalement, tu t'es lancé un petit peu comme ça à chaque fois. C'était pas réfléchi en mode, voilà, je vais aller faire ça.
Mettre en place une stratégie de communication,
Voilà.
rien de tout ça, hein, c'est au
Ouais.
hasard, ouais,
Je
c'est
pense que
ça.
c'est ta sincérité. Bon, t'as fait un peu au feeling, t'étais sincère. J'ai vu ta vidéo. En fait, je l'avais vue il y a longtemps, tu vois, ta vidéo. Je l'avais revue quand j'avais pensé te recevoir sur le podcast et tout. J'avais envie de la revoir. Et ouais, j'aimais bien, en fait, voilà, le message que tu fais passer, etc. Et c'est un beau message. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu es créatrice de contenu, etc. Est-ce que aujourd'hui, tu es. Parce que. Tu vois, dans les vidéos que tu transmets, tu parles de pas mal de choses, et parfois tu fais passer quand même des messages forts, tu vois. Je pense notamment, par exemple, Inch'Allah, de la cause ouïghour, tu vois, qui te tient à cœur. J'ai vu, tu as fait une vidéo, tu es partie à la rencontre donc d'une personne qui a réchappé au camp ouïghour, tu vois, au camp de voilà, en Chine, des camps de concentration. Et donc, tu es quand même engagée. Tu vois, est-ce que, et moi, justement, je trouve ça beau que finalement tu utilises également ta visibilité, bah, pour défendre des valeurs qui te tiennent à cœur, pour défendre une cause qui te tient à cœur. Et donc, ça, j'imagine quand même que c'est réfléchi, tu vois, c'est un choix de ta part que tu fais pour transmettre ça. Et est-ce que tu as d'autres, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Est-ce que tu as des messages que tu veux faire passer? Ou est-ce que tu te dis un petit peu, j'ai une mission, j'ai quelque chose que je voudrais, ouais, est-ce que tu peux nous en dire plus?
En fait, une mission, bah, en fait, plus tu grandis, surtout quand tu as une conscience religieuse, bah, tu te dis que tu peux pas faire les choses au hasard aussi. Enfin, voilà, Allah, il nous a donné un cerveau, c'est pour l'utiliser. Et en fait, je réfléchissais et je me disais, bon, Asya, il suffit que tu dises un mot dans le bien, tu peux avoir des récompenses de dingue. Et puis, il suffit, pardon, d'avoir un mot dans le mal. Et là, c'est terminé pour toi. Parce que là, c'est des milliers de personnes qui me suivent. Donc là, en fait, c'est pas que j'ai pas le droit à l'erreur, mais ça va être difficile quand même de réparer les pots cassés. Donc du coup, je me dis, ouais, Asya, t'as une visibilité, profites-en pour faire porter la voix à plein de choses, à plein de personnes, surtout les personnes. Par exemple, bah, je parlais, par exemple, malheureusement, j'ai enlevé la vidéo sur la confiance en soi, mais c'était une vidéo que les personnes avaient beaucoup appréciée pour en fait redonner confiance aux personnes. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette petite touche, disons, religieuse que je ne vais pas forcément dire explicitement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas visiter, pardon, viser seulement la communauté musulmane. C'est pas que je veux pas, c'est que je veux inclure vraiment tout le monde. C'est vrai que déjà d'apparence, bah, je suis musulmane, il n'y a pas de débat, mais il est vrai que j'ai toujours ce petit message derrière où de dire, voilà, si tu as confiance en toi, c'est d'abord pour que tu sortes un peu de ton cocon, de tout ça, et tu puisses faire de grandes choses, en fait. Mais faire de grandes choses, c'est pas... C'est à des fins, évidemment, qui sont bonnes. Pareil, est-ce qu'on peut prendre d'autres exemples, bah, par rapport aux Ouïghours? On parle de la femme ouïghour, et d'ailleurs ça m'a hyper touchée. D'ailleurs, vous pouvez la voir, elle est encore visible sur ma chaîne YouTube, où en fait elle disait, là, ce que je te fais actuellement, Asia, c'est une MNA. C'est-à-dire ce qu'elle m'a raconté, c'est une MNA. Et toi-même, tu sais, hein, l'importance de l'MNA, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, tu vois. Mais c'est une responsabilité de dingue. Et en fait, à partir du moment où elle m'a dit ça, ça a fait écho. J'ai dit, ouais. Je vais faire cette vidéo correctement, comme il faut, et t'inquiète pas qu'on va porter cette voix. J'ai vu que la vidéo, quand même, elle a fait 80 000 vues, franchement, c'est pas rien. Et pareil sur Instagram, elle a fait 200 000 vues, enfin, je suis hyper contente. Et ça permet, en fait, de faire plus de doigts aux personnes, au final, qui en ont besoin, de penser à eux, et également de... Ben, en fait, je sais pas comment t'expliquer. Je vais donner du contenu aux personnes pour qu'elles puissent au final méditer là-dessus, tu vois. Par exemple, je vais présenter du coup les Ouïghours, c'est aussi pour être beaucoup plus reconnaissant envers Allah, tu vois. Se rendre compte de nous, notre chance. En fait, c'est aux personnes de méditer derrière mes vidéos. Chacun prend comme il veut ce que je propose, mais c'est toujours normalement, enfin j'essaye du moins, toujours avec, avec une pensée positive, disons.
Machin, ouais, et puis, tu vois, à un moment donné, tu as dit, moi, je m'adresse à tout le monde. Je ne m'adresse pas forcément que à la communauté musulmane. Et
Ouais.
en fait, mais je trouve ça bien. Et puis finalement, tu sais, en faisant ça, bah, tu fais une da'wa encore plus universelle parce que, comment dire, le fait que tout le monde se sent, tu vois, même des non-musulmans peuvent se sentir voilà, accueillis en fait, dans ton compte parce qu'ils ne disent pas, ah, mais c'est adressé qu'aux personnes musulmanes. Bah, finalement, bah, tu leur fais tu leur transmets des choses, tu leur fais une espèce de da'wa un peu inconsciente comme ça parce qu'ils voient une jeune femme musulmane qui est voilée, voilà, qui s'habille mestour et qui a des valeurs et qui défend ses valeurs et qui a un bon comportement, etc. etc. Et finalement, bah, tu sèmes des graines peut-être là où tu ne t'y attends pas, tu vois. Et ça, c'est un truc que ma mère, elle aimait bien me dire, tu vois, elle me disait, mais où que tu sois, quel que soit le lieu où tu es, quel que soit le contexte, bah, sème des graines. Et ces graines, tu n'es pas obligé de les semer, tu vois, en faisant da'wa directement, en disant, tu vois, en parlant d'Allah et tout. Tu peux aussi le faire avec le bon comportement,
Exactement.
avec le sourire, en étant droit, etc., etc., tu vois. Les gens, ils vont, tu vois, ça va les toucher et pourront, enfin, ça peut être une cause, en fait, de guider, quoi. Donc,
Et
ouais.
d'ailleurs, je voulais juste rebondir sur ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant. Tu vois, justement, ça me rappelle juste ma cousine qui s'est d'ailleurs récemment voilée, mashallah. Et elle ne le portait pas, tu vois, avant. Et juste et seulement par son comportement, t'imagines, elle a réussi à faire convertir quelqu'un. Elle ne portait pas le voile, hein. Mais en fait, elle est d'une douceur, cette femme, mashallah, et d'une douceur que. En fait, pour elle, c'est naturel, en fait. Et les personnes, en fait, je sais pas comment t'expliquer, on dirait un aimant, tu vois. Ça fait
Oh,
du bien de
c'est
voir des
beau.
personnes, tu vois, qui sont bonnes, en fait. T'as juste envie de leur ressembler. Et la personne lui a demandé, justement, mais qu'est-ce qui fait que t'as toujours le smile? Qu'est-ce qui fait que t'es toujours adorable, hyper honnête, etc. Bah, et elle a parlé de sa religion. Et
Ah,
si ça a direct... Parce que la fille était pas très bien dans sa vie aussi. Et bah, elle s'est convertie. C'est dingue.
Subhanallah, ah là là,
Ouais.
comme quoi c'est beau, franchement, qu'Allah récompense grandement ta cousine et qu'Allah voilà, guide complètement cette personne-là, c'est beau. T'as vu, subhanallah, comme quoi, tu vois, une petite graine comme ça que tu sèmes sur ton chemin voilà. Et donc, c'est pour ça que, tu sais, Asya, vraiment, le conseil que je te donne, et c'est le conseil que je me donne aussi à moi aussi, et puis à toutes les créatrices de contenu qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y en a quand même pas mal, hein, il y a des entrepreneurs
Oui.
qui nous écoutent et tout. C'est vraiment, mettez l'intention, finalement. Mettons l'intention quand on est sur les réseaux, pas uniquement d'être là pour, je sais pas, t'es influenceuse, tu vends un produit, tu as un e-commerce, j'en sais rien, moi, tu vois. Mais va au-delà de ça, tu vois, et mettons une intention plus grande, une intention de dawa, une intention de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, une intention de faire le bien, une intention de faire le bien pour la dunya et pour la akhira, tu vois, de recevoir les fruits, pas que ici, mais aussi dans l'au-delà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ouais, mettons des belles intentions parce qu'en fait, les fruits peuvent être vraiment, 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 vraiment magnifiques, machallah. Puis ouais, je me dis, parmi toutes les personnes, tu vois, qui regardent tes vidéos, tu sais, il y a 800 000 vidéos qui regardaient ta vidéo sur le voile, forcément, ça a dû attirer aussi des personnes un peu curieuses qui
Oui.
sont pas dans la religion et tout, mais qui veulent en savoir plus. Et c'est une autre manière, en fait, finalement, de semer des graines. Toi, aujourd'hui, c'est quoi que tu kiffes, en fait, dans ce que tu fais? Dans la création de contenu et tout, je sais pas, est-ce que, enfin, c'est quoi que tu kiffes le plus et pourquoi tu le fais? Enfin, on a parlé en fait dans tout ce qu'on a dit jusqu'ici, je pense on a répondu un petit peu à cette question du pourquoi, mais c'est quoi qui te fait kiffer? Est-ce que c'est le côté un peu créatif, c'est le côté un peu technique, c'est le côté un peu partagé avec les personnes, je sais pas, c'est.
Alors, il y a plusieurs choses. La première, tu sais comment je vais répondre à ta question, c'est moi-même en me posant cette question de si j'arrête les réseaux, qu'est-ce qui va manquer, tu vois? Eh bien, la première chose qui va énormément manquer, c'est la soif de donner aux personnes mon savoir. J'ai pas cette avarice, disons, je ne sais pas si ça se dit, du savoir. Je sais quelque chose, je transmets. Et je serais tellement frustrée de me dire que je ne peux plus transmettre, tu vois. Je te promets, ça peut être des choses bidons du quotidien, tu vois. J'ai un bon plan, regardez les filles, j'ai découvert ça. Enfin, ah, cette soif de dire aux gens en même temps, je pense que ça te fait du bien, tu vois, d'apprendre aux personnes, d'enregistrer, de transmettre ton savoir, minime soit-il, tu vois. Ce n'est pas des choses parfois extraordinaires, mais... Moi, c'est ça vraiment qui me fait kiffer. Et c'est pour ça que je reste sur les réseaux. Et deux, en second temps, ça va être vraiment la créativité. Franchement, être posé sur mon téléphone, faire du montage, réfléchir à quel petit son irait avec cette image, trier les informations. Ah, c'est hyper passionnant, vraiment.
Ah, c'est intéressant. Ouais, non, c'est, ouais, je reconnais bien ça en toi, hein, ce plaisir que tu as, ce besoin, en fait, c'est pas un plaisir, c'est un besoin vraiment de transmettre. Et ça m'a fait rire, ouais, je me suis dit, ouais, même les petits trucs, ça se voit, tu sais, quand tu nous partages tes bons plans, tes looks, tes choses comme ça, on sent que tu kiffes faire ça, quoi. Donc, tu es faite pour ça. Mais c'est intéressant, du coup, c'est. Du coup, ça te va bien finalement, même ce côté, tu vois, de faire des partenariats, de faire de l'influence, de faire des choses comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui te correspond bien parce que ça ne correspond pas à tout le monde, tu vois. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu as déjà naturellement. Tu sais, parce que moi, en fait, c'est bizarre parce que autant j'aime bien, ouais, j'aime bien, en fait, j'aime bien faire des podcasts, tu vois. J'aime bien partager, j'aime bien écrire, j'aime bien transmettre des messages, des valeurs, mais plus dans les histoires, le storytelling écrit ou à l'oral. Mais par contre, je ne suis pas du tout. Je suis pas trop dans les trucs du quotidien, dans les petits partages, dans les machins. Et d'ailleurs, tu sais, parfois, tu sais, dès que tu commences à augmenter ta visibilité et tout, des fois, on me contacte pour des partenariats, pour des choses, que je peux t'envoyer ce produit, ce que je peux faire. Et moi, je suis là, ah, mais non, mais c'est vraiment pas mon délire.
Ouais.
Non, ça me
Je
met trop
comprends
mal à
beaucoup.
l'aise.
Oui.
Tu
Non, je
vois?
comprends. Bah, écoute, moi, à la base, bah, je n'étais pas du tout partenariat, je t'avoue. La première fois que j'ai fait un partenariat, tu sais comment j'ai fait? J'ai osé contacter une marque que je kiffais. Tu vois, j'ai des gens complètement chez elle. C'était Maïssa Fashion Boutique. Première marque où, et encore aujourd'hui, où j'achète mes vêtements quand je porte, enfin, avec le voile, j'adore ces tenues, elles sont incroyables, bref. Et je l'ai contactée, je lui ai dit, écoute, j'attends mes 10 000 abonnés. Alors, 10 000 abonnés, c'est je dis, je vais attendre 10 000 abonnés, je veux trop faire un concours pour mes abonnés. Il n'y a pas de rémunération, tu vois, juste, elle offre, je sais pas, un bon d'achat chez elle ou un truc comme ça. Je dis, s'il te plaît, elle mérite, elles sont trop mignonnes, nanana et tout. Et elle avait accepté, j'étais trop contente. Et du coup, voilà, on a fait ce concours, c'était trop bien. Et depuis, je reçois, depuis que j'ai eu 10 000 abonnés, ne me demande pas pourquoi, j'ai eu plein de demandes. Et ben, ça continue évidemment aujourd'hui. Bon, je t'avoue que sur 100 demandes, j'en accepte à peine une. Je te le
Non,
dis
mais ça
honnêtement.
m'étonne pas, je te
Parce
crois
que je
bien, moi.
reçois soit des trucs, pas d'arnaque, mais dits douteux, soit des commerces qui ne sont pas déclarés, ou sinon, tu sais, quand tu n'as pas enfin, t'as pas
Tu le sens pas.
ouais, eh ben je le fais pas. Voilà, donc pour un tas de raisons. Mais après, je le kiffe, hein. Enfin, franchement, en général, les produits que je reçois, tu sais, c'est des vêtements que je porte tous les jours, que j'aime trop. Et puis les marques aussi, ça leur permet d'avoir une visibilité de
Bah
dingue.
oui.
Enfin, tu vois, typiquement, je sais pas, elles investissent une petite somme, elles ont en général une rentabilité de fois 10, fois 20, tu vois. Donc, bah, au final,
Ouais.
elles sont en total bénéf. Et moi aussi, parce que bah, je profite aussi de leurs produits, je profite de prestations, je profite de voyages aussi. Récemment, on a fait une collaboration en voyage, s'il te plaît. Enfin, c'est dingue. Et alhamdoulilah, parce que tout ça, c'est grâce à Allah. Mais voilà, en tout cas, moi, j'adore, hein, tu sais, c'est incroyable.
Ouais, mais en plus, je trouve que tu le fais bien. Pour tout te dire, j'en parlais avec une copine, tu vois. Et en fait, et elle me disait, ça, j'aime bien, mais Asiatique, ça se voit que, Asia me disait, ça se voit que quand elle fait un partenariat, quand elle s'engage, bah, elle fait les choses bien, quoi. Tu vois, les contenus, etc., elle le fait vraiment. C'est pas en mode. Parce que tu sais, aujourd'hui, on est quand même dans une période où. Ah, mais il y a ma fenêtre qui est ouverte, c'est pour ça qu'on entend du bruit tout à l'heure. T'entends du bruit, toi, depuis tout à l'heure ou pas?
Non, pas du tout.
Non? C'est
Micro,
vrai?
il est efficace.
Bon, ça va, Bon, cher auditeur, j'espère que vous n'entendez pas des voitures passer depuis tout à l'heure. Donc, pour revenir à ma copine, oui, donc elle me disait, voilà, elle me disait, quand tu fais des vidéos, quand tu prends des. Ça se voit que quand tu fais un partenariat, etc., quand tu dis oui, je pense que enfin, ça se voit que tu te donnes à fond et que tu fais les choses de manière carrée, professionnelle, etc.
Ah oui.
Et je pense que ça rejoint du coup ton autre passion qui est de créativité, de faire ça bien. Ah oui, et je disais qu'en ce moment, il y a une espèce de grosse polémique. Enfin, voilà quoi, tu sais, avec Booba, on va pas
Ah
parler de tout
oui,
ça,
c'est
mais
ça. Ouais.
voilà, Magali Verda et tout. Et ce truc un peu de, tu sais, des influenceurs pas éthiques bah, qui prenaient, qui voulaient, enfin voilà, qui étaient juste là plus ou moins pour faire de l'argent, tu vois, pour utiliser leur grande communauté, leur grande visibilité, et qui du coup bah, faisaient des trucs, voilà, il y a eu des arnaques, des gens qui n'ont pas reçu leurs produits, des produits du AliExpress, enfin plein d'histoires comme ça. Et donc voilà, donc aujourd'hui, je pense que même les marques, elles ont besoin, tu vois, d'avoir des personnes fiables. Et alhamdoulilah, mais après, dans notre communauté, ça va, quoi. J'ai pas, alhamdoulilah, tu vois, il n'y a pas eu de... Il ne semble pas qu'il y ait eu des espèces de scandales, là, comme ça. Enfin, bref, donc, ouais, donc, c'est super intéressant. Ah oui, en parlant, du coup, du monde de l'influence, des partenariats et tout, mais est-ce que tu as pensé, parce que je me dis, vu, machallah, comment ça marche bien, toi, quand tu parles des produits des autres, est-ce que tu as déjà pensé à créer, bon, t'es encore jeune et tout, mais dans l'avenir et tout, de faire ton propre produit, de faire ta propre marque, de faire quelque chose comme ça, de te lancer finalement dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est un truc qui te parlerait ou pas du tout, si cet univers, ça ne te plaît pas et tu préfères juste rester dans le monde plutôt de l'influence et tout. Je pense notamment, par exemple, à Salima Aliani, tu vois, qui est influenceuse et tout. Machin, je pense que c'est une des plus grandes influenceuses francophones musulmanes et tout. Et en fait, je me dis, ben voilà, tu as fini par lancer sa marque, Salima Aliani Paris et tout, de vêtements. Est-ce que tu as un projet comme ça, toi aussi, ou pas?
Alors, j'avoue que les projets, j'en parle pas trop. Mais
ouais, je comprends, c'est vrai. Reste
ouais.
vague.
Ouais. Mais par contre, pour les projets en cours, ça, je peux en parler, il n'y a aucun souci. Alors, j'ai déjà pensé à une marque, effectivement. Mais c'est vrai qu'en fait, dès qu'on se lance dedans, on se rend compte qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a trop de tâches, hein, d'y penser, j'ai mal au crâne, tu vois. Du coup, là, actuellement, pour... Bah, pas une question de facilité, c'est surtout un métier passion parce qu'on ne gagne pas autant, mais c'est un kiff total. C'est vraiment être guide touristique à Istanbul, tu vois. Donc, moi, en fait, j'ai fait 2 tours à Istanbul. Bon, j'avoue que ce n'est pas encore officiel parce que, évidemment, il y a trop de choses à faire. Il faut faire un site internet. Et moi, voilà, si je fais une bonne com pour les autres, la mienne, je vais la faire encore fois 1000, mais encore mieux, tu vois. Donc, tout ça, c'est en préparation. Donc, ouais, on va essayer de professionnaliser tout ça bien comme il faut, avec une bonne communication, avec une belle image. Donc, oui, évidemment, parce que pourquoi? D'ailleurs, si jamais il y a des influenceurs qui te suivent ou qui souhaitent l'être, sachez que c'est hyper important de rebondir avec un business si vous n'avez pas de travail à côté. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous écrouler. Parce que les réseaux sociaux, c'est très éphémère. C'est-à-dire, tu vas avoir ton coup de buzz. Après, ça descend, les gens, ils t'oublient. Voilà. Moi, je connais plein d'influenceurs, nous-mêmes, on connaît beaucoup de personnes. On se dit, mais ils deviennent quoi? Je sais pas, bon, c'est une chanteuse, hein, mais Indila, que j'écoutais moi à l'époque, ben, elle a eu son coup de buzz, plus de nouvelles du tout. Et en fait, il y a plein de personnes comme ça. Et moi, je veux pas devenir cette personne-là. Je veux encore exister, je veux encore profiter de la visibilité que j'ai construite à travers toutes ces années, quoi. Et voilà, ben là, j'ai tapé en plein dans le mille parce qu'il y a pas mal de turcophones qui me suivent. Il y a pas mal de personnes de France qui souhaitent visiter Istanbul. Et moi, j'ai vécu 1 an. Mon mari connaît extrêmement bien l'histoire parce que c'est un fou passionné. Donc, avec mon mari, on s'est regardé, on a dit, est-ce que ça nous irait pas bien, du coup, finalement? Donc, on a fait déjà 2 sessions. On est allé 2 fois, du coup, à Istanbul avec 10 personnes. Ça s'est super bien passé. C'était trop bien. Et du coup, on va réitérer ça, Inch'Allah, dans les prochains mois. Mais ça va être avec une fréquence beaucoup plus importante. Donc, ça va être cool, ouais.
Ouais, ça, du coup, ça va être comme des petits voyages comme ça. Et vous, avec vous, c'est un truc comme ça? D'accord, parce c'est que ça, je sais pas pourquoi, gros... je pensais à un livre au début. Hein, guide touristique. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai pensé à un livre, tu vois, sur machin. Mais je...
Ben, non. Pourquoi pas? Écoute, merci pour la... la proposition, vraiment c'est top parce que c'est vrai que je suis en face d'une grande entrepreneuse aussi, donc je prends. Ben écoute, oui, et ça déjà, c'est dans un premier temps, on veut le lancer dans ça. Et aussi, je suis conférencière, tu vois, j'ai déjà intervenu dans plein de conférences un peu partout en France.
Je savais pas, tu sais, je savais pas du tout.
Ouais. Ben, après, j'avoue que ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'en fais plus du tout parce que manque de temps et je fais pas mal de choses à côté. Par contre, là, j'ai décidé de relancer ça. Là, il y a un événement qui va arriver très bientôt, que je suis en train de construire, qui va se situer à Paris, Inch'Allah, sur une demi-journée. Et on va parler du marketing d'influence, je le dis en exclusivité. Parce qu'en fait, on me pose, pour tout te dire, j'ai conseillé et j'ai aidé pas mal de femmes dans l'entrepreneuriat, voilà, tout ce qui est image de marque, comment travailler avec les influenceurs, comment les contacter. Voilà, tout le processus sur le marketing d'influence. Et ça a intéressé énormément de monde. Donc, j'ai dit, bah, je vais faire mes propres séminaires. Donc, voilà, il y a pas mal de dates dans toute la France aussi qui vont arriver. Donc, voilà, oui, bien sûr, on travaille aussi à côté.
Bah ouais, tu bouges. Non, mais c'est bien. En fait, du coup, oui, du coup, tu utilises ton expérience que tu as développée en mode intensif ces dernières années. Et ouais, du coup, tu partages ça et tout. Ok, super intéressant. Et je crois que en fait, finalement, je crois que j'avais vu passer ça, ouais, il y a quelque temps. Ça me dit un truc, en fait, quand tu as dit ça, ouais, marketing d'influence et tout, ça me dit quelque chose. Non, mais c'est bien. Et pour en revenir à. Je vais parler d'un sujet qu'on a abordé vite fait tout à l'heure, mais là, je vais le raborder un peu plus en profondeur. C'est le sujet du voile. Je voulais savoir, Asia, c'est donc t'as 18 ans quand tu décides de le porter, c'était juste avant que tu te mettes sur les réseaux sociaux, etc. Machallah, j'imagine qu'à ce moment-là, tu étais dans tes études, tu avais des projets, tu fais du sport, tu es active, machallah, tu es une jolie femme, etc. Comment est-ce que tu as eu ce déclic de porter le hijab alors que ben, ce n'est pas toujours évident? Et moi, je suis toujours très touchée. Honnêtement, quand je vois des jeunes filles qui ont entre guillemets tout l'avenir devant elles, qui sont jeunes, qui sont belles, etc., et qui décident de porter le hijab pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que je me dis, elles font un sacrifice en fait, elles font un vrai sacrifice pour Allah, et je trouve ça beau, tu vois. Et je sais à quel point c'est pas évident en fait de faire ce pas-là quand t'es jeune. Tu peux être tenté de dire ouais, mais plus tard, ouais, mais tu peux être bloqué par tes peurs de et si je trouve pas de travail, et si je trouve pas de mari, et si je galère à faire ceci, à faire cela. Et toi, à ce moment-là, t'avais pas encore les réseaux sociaux et tout, donc tu pouvais pas encore te dire ouais, je sais pas, ah, ça va, j'ai les réseaux, enfin, j'ai cette idée de voilà, d'influence, je peux faire des trucs. C'était avant tout ça. Comment est-ce que tu as eu ces peurs? Comment tu as eu le déclic? Est-ce que tu as eu ces peurs? Comment tu as fait pour affronter tout ça?
Alors déjà, pour revenir à la petite Asia, j'étais une folle dingue. Moi, fallait me voir. Hein. Tu dis, mais jamais elle va porter le hijab. Hein. Si tu vois Asia petite, tu dis, mais Asia à 16-17 ans, jamais elle va porter le hijab. Dingue de mes cheveux, voilà. Voilà, c'était. Mais il y avait une fixette dessus. Ça veut dire, à aucun moment, moi, je vais penser à les cacher. Ça n'a pas la tête ou quoi. Et du coup, soit on en avait parlé. Alors ça, bon, c'était pas enregistré. Mais il y a une sorte de renaissance, de reconversion, en fait, dans sa conscience spirituelle. Bah, c'est ce qui m'est arrivé. Et en fait, comme tu as dit, j'étais une très grande sportive aussi. Donc, bah, le voile et le handball, par exemple, ça colle pas. Moi, j'avais arrêté tous les sports. J'avais seulement gardé le handball pour me fixer parce que c'était en haut niveau. Mais bah, le voile, non, ça colle pas. On est toujours en short, on est toujours voilà, avec un petit chasuble, un maillot, etc. Donc, pour moi, c'était inenvisageable. Mais en fait, à un moment donné, ta foi, elle dépasse tellement tout ça. En fait, quand tu te rends compte que tu peux mourir là, maintenant, d'accord, ok, t'es fraîche. Ok, t'es belle. Ok, t'es la plus forte en handball. Ok, t'es la best. Tu as tous tes diplômes, etc. Ok. Mais moi, j'ai peur devant Allah, en fait. Mais moi, je ne veux pas me retrouver devant Allah. Alors, rien que d'y penser, franchement, j'ai envie de chialer, mais j'ai pas envie de me retrouver devant Allah et pleurer de culpabilité, en fait, et de me dire pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi nanana. Bah, ma chérie, t'as été prévenue. Genre, c'est le jeu à un moment, tu vois. Donc, j'ai eu cette réflexion et j'ai surtout pensé au châtiment de la tombe. Moi, c'est ça qui m'a. Je sais pas, toi, comment ça s'est passé dans ta réflexion, mais clairement, avant de dormir, tu te mets dans le noir, tu as l'impression d'être dans une tombe et rien que d'y penser. Moi, je faisais que pleurer, 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 j'étais pas bien. Et du coup, comme tu disais, la difficulté, elle était là pour ma part parce que je sais que parmi celles qui vont écouter, tu as ces personnes qui portent le voile par obligation. Et du coup, elle le remplit franchement sans ayant de difficultés. Et alhamdoulillah, c'est génial. Et puis, t'as ces femmes qui vont être du coup éprouvées par certaines sensibilités du coup. Donc moi, notamment, c'était par rapport à la beauté. Et c'était bah, par rapport à ma carrière. Hein. Ma carrière, moi, je voulais être avocate à la base ou bien diplomate. Enfin, tu vois, j'avais ces deux métiers en tête. Et bah, au-dessus de tout ça, j'ai dit non. Non, il n'y a pas de débat. Donc, du coup, bah, j'ai arrêté le handball. J'ai dit au revoir à toute ma petite équipe. Au revoir à mon coach. J'ai laissé tout ça derrière moi. C'était une bonne période de ma vie. Alhamdoulilah, j'ai profité. Hein, écoute. Et pareil, pour mes études, bah, Allah m'a donné mieux. C'est simple. Allah m'a donné mieux. J'ai beaucoup. Franchement, j'ai eu peur pour mon avenir. J'ai eu très, très peur. Et alhamdoulilah, c'est tout. Franchement, moi, je vais dire, j'ai que 23 ans, hein, j'ai rien vécu dans ma vie. Hein. Mais si je peux dire une chose et rassurer nos auditrices, c'est que Le tawakkul, les filles, la confiance totale en Allah, mais une confiance aveugle. Ne réfléchissez. En fait, il n'y a pas de réflexion normalement à avoir. Normalement, après, on est imparfait. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et j'avais une seconde peur, c'était aussi une troisième peur, du coup, c'était l'entourage. J'avais pas de filles voilées autour de moi. Il faut savoir que j'ai toujours vécu à la campagne. J'ai toujours vécu autour de, voilà, de 100% français, etc. Voilà, si tu vois un petit peu le délire. Donc, c'était un autre contexte. Et je me souviens encore quand je rentrais dans le bus la première fois avec le voile, tout le monde qui me regardait. Oh, c'était horrible. Et rien que d'y penser, j'étais sûre. Mais ben regarde, au final, aujourd'hui, est-ce que si, par exemple, je vais dans ma tombe, je pense à ces gens? Non, je m'en fiche. Moi, j'ai répondu à mon obligation, honnêtement, ce jour-là. Au final, c'est moi qui ai été la gagnante, tu vois. Donc, bref, voilà comment ça s'est fait. Donc, moi, je l'ai porté. Il faut aussi savoir que une fois que je l'ai porté, eh ben, alhamdoulilah, ma mère l'a porté un mois après moi. Elle ne le
Oh,
portait
courage.
pas. Ma mère aussi, c'était une grande sportive. Et ma sœur, elle l'a porté un an après nous, du coup. Donc voilà, on le porte
Achana.
toutes, alhamdoulilah. Ma sœur, aujourd'hui, elle a 19 ans, mais quand elle l'a porté, elle avait 17 ans. Et voilà un petit peu comment ça s'est passé. Donc maintenant, ça fait combien de temps? Attends, j'ai jamais compté. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 4 ans! Waouh! Ça va.
Achana.
Oula!
Franchement, ça m'inspire plein de choses. Déjà, ta réponse, c'est la meilleure des réponses, tu vois. Au départ, tu sais, quand... parce que tu m'as dit, ouais, mais c'est le rappel de la mort, finalement, tu vois. C'est le fait de dire, ah ouais, je vais mourir, je me retrouve dans ma tombe, je retrouve devant Allah, je vais dire quoi? Et ouais, en ce moment, il me le demande, donc c'est tellement vrai. Encore une fois, tu vois, moi, tu le sais, je parle souvent de la mort et tout. Encore une fois, tu vois à quel point le rappel de la mort, il met de la clarté dans ta vie. C'est
Vraiment.
un truc de fou, tu vois. Et il y a une chose qu'on n'a pas dit, genre tu l'as dit vite fait et tout, parce que nous, on en a bien parlé en off, mais les gens, ils n'étaient pas là en off. C'est quand tu as dit la reconversion, tu vois. Parce qu'en fait, encore une fois, j'avais découvert ce concept, on va dire, via Zeynep de Courant de mon cœur. Et quand on discutait, là, il y a quelques soirs, avant-hier, je crois, avec Assia en papoté, et tu m'as parlé de ça, et tout de suite, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, mais oui, mais c'est tellement beau et tout. Parce que tu m'as dit, il y a un moment donné, bah, c'est comme si je me suis reconvertie. J'ai fait ma shahada, j'ai fait mon attestation deux fois. Je me suis remise en question. Et voilà. Est-ce que tu voudrais nous parler de ce moment-là? Est-ce que tu voudrais nous raconter ce moment-là? Parce que moi, je trouve ça vraiment trop beau.
Oui, bien sûr. Alors déjà, pour mettre dans le contexte, alhamdoulilah, l'islam plane et j'espère qu'elle planera encore dans notre famille, alhamdoulilah. Et voilà, pratiquant, mes parents prient et moi également, mes frères et soeurs également. Et il était normal et banal que mon père nous appelle toujours pour faire la salat, du coup la prière tous ensemble. Mais en fait, c'était un mécanisme logique, banal, mais comment dire? C'était pas réfléchi. Et moi, évidemment, plus je grandissais et plus je me disais, mais pourquoi faire les choses sans réflexion? Donc, il m'est arrivé à ce moment-là, et d'ailleurs, c'était avec ma petite sœur, surtout, on parlait beaucoup de ça. On se dit, mais pourquoi on est musulman? Pourquoi on doit adorer Allah? Pourquoi? Et puis, sont venus tous les parce que. Et en fait, j'ai clairement redécouvert l'islam comme je l'ai jamais connu. Et c'est surtout l'amour qui est né de tout ça, tu vois, l'amour envers Allah. Et il m'a, mais par le naturel, entre guillemets, ben, comme je t'avais dit, de dire la shahada, parce que j'ai l'impression que j'étais un peu dans la période jahil, tu vois, jahiliya un peu. Et alhamdoulilah, comme une clarté de dingue, tout était limpide. Et m'a paru normal, du coup, de faire cette réflexion-là. Mais c'est vrai que c'est dingue, hein, ça arrive à beaucoup de filles, hein, c'est de se poser et se dire pourquoi je crois. Mais ça, c'est beau, hein, parce que quand après, c'est un choix réel,
Ouais,
là,
exact.
c'est différent, tu vois.
C'est ça en fait, parce que et c'est aussi ce que me disait Zeynep, c'est que tu sais, l'islam, tu l'as reçu en héritage, et à ce moment-là, quand tu fais la shahada, c'est plus un héritage, c'est ta décision, c'est ton choix, c'est toi qui vas vers Allah, tu vois. Et Ah, mais je sais pas, je trouve ça vraiment trop beau, quoi. Je trouve ça hyper inspirant, hyper intéressant aussi, tu vois, comme introspection que tu as fait à ce moment-là. C'est vraiment beau. Et tu sais, et voilà, pour en revenir par rapport au hijab, c'est fou. C'est fou parce que bah, tu as fait des sacrifices, en fait. Tu étais prête à sacrifier plein de choses qui te tenaient à cœur. Tu as dit le handball, en plus, tu étais au niveau quand même. Et voilà, tu dois arrêter ça. Tu voulais être avocate, etc., ou diplomate. Tu dis, bon, voilà, quoi, diplomate en France avec le hijab, voilà, quoi. Tu dis, voilà, tu voyais bien que bah, il allait falloir bah, mettre de côté certains objectifs de vie, certains rêves, certaines passions. Et subhanallah, tu savais pas où t'allais, mais juste le tawakkul. Tu l'as dit aussi, le tawakkul à Allah, tu vois, bah, je sais pas où je vais, Allah. Ah là là, je sacrifie, mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Et en fait, celui qui sacrifie quelque chose pour Allah, Allah il le remplace par quelque chose de meilleur. Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah, il lui suffit. Et c'est ça qui est beau parce que du coup, le reste de ton histoire, ben, finalement, ce n'est que l'illustration de ça. Et oh, j'aime trop. Subhanallah, le fait que voilà, tu dis, Allah, je vais me porter le hijab, je vais arrêter ça, 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 ça pour toi. Et Allah, il t'ouvre des portes que tu n'imagines même pas. Il t'apporte la visibilité, il te facilite des choses qu'aujourd'hui, voilà, il y a des gens, ils galèrent de ouf. Enfin, je dis des gens, mais moi aussi, tu vois. Ta visibilité et voilà et pourtant tu sais moi j'ai commencé sur les réseaux après sur Facebook juillet 2018 c'est très exactement d'ailleurs là ouais ça va faire 6 ans si mes comptes sont bons hein
4, 5, 5.
5 ans ok mes comptes ne
Oui,
sont pas bons j'ai honte
ça va.
ouais voilà bah tu vois voilà et je me rappelle très bien avoir ramé au début et tout tu vois. Et voilà, et voilà, c'est fou en fait de voir que mais quand tu fais un sacrifice pour Allah, en fait, tu n'es pas perdante. Quand tu investis dans ta akhira, bah, tu n'es jamais perdante et tu as toujours la récompense. Et soit la récompense, tu vas l'avoir ici, parce qu'Allah, il va t'ouvrir des portes, il va te faciliter des choses, il va te faciliter un chemin de vie que tu n'imaginais même pas. Et dans tous les cas, donc, dans tous les cas, tu seras gagnante ici-bas, mais surtout, tu es gagnante dans l'au-delà. Et finalement, c'est ça le plus important, c'est que Allah, il te récompense pour ton choix, pour ta patience, pour le sacrifice que tu as fait. Et Allah, il aime ça, tu vois. Et encore une fois, je trouve ça beau de le faire quand tu es jeune. Et les conséquences sont magnifiques que derrière ta mère, subhanallah, elle a suivi, elle a sauté le pas, et ta sœur. Et qu'Allah t'apporte la récompense
Amen.
d'avoir commencé, tu vois, et machin, je trouve ça, ouais, c'est beau. Et pour les personnes, du coup, qui écoutent, parce que tu sais, une fois, j'en ai fait un épisode de podcast parce que j'ai reçu un message d'une personne qui m'a trop touchée. Elle m'a dit, Oumaima, j'ai envie de porter le voile, mais ma mère, elle refuse, elle ne me laisse pas le porter, tu vois. Donc sa maman, il me semble qu'elle ne le porte pas, du coup, et elle refuse qu'elle le porte. Et donc, c'était pour elle hein, que j'avais fait cet épisode de podcast. Et ça m'avait beaucoup émue. Et bah, finalement, en fait, tout est possible, tu vois. Voilà, tout est possible. Cependant, toi, au moment où je le portais, t'imaginais pas, non, que ta mère, qu'elle allait suivre le pas derrière.
En fait, pour tout te dire, quand je lui ai annoncé ça, en vrai, elle a paniqué parce que je lui ai dit ça en vocal. Je lui ai annoncé ça en vocal pendant qu'elle était au Maroc.
Alors là, t'aurais pas cherché à
Bah,
aller à éviter?
elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu as? Enfin, pourquoi? En fait, surtout qu'elle sait comment je m'apprête. Elle sait. Elle me dit, mais Assia, j'en réfléchis bien. Et dans sa tête, elle pensait que j'allais l'enlever, hein. Enfin, elle voulait pas me le dire à ce moment-là. Elle me l'a dit une fois qu'elle a vu que je le portais pendant longtemps. Mais elle n'y croyait pas vraiment. Et en plus, tu as toutes les tantes qui wes-wes, hein. Ta fille, mais voilà, c'est comme toutes les jeunes. Enlever, tu vois, les fameuses. Mais moi, non, j'étais convaincue de ce que je faisais quand même. Et puis, même si ça arrive, même si ça arrive, même si je l'enlève, même si ça arrive, au final, alhamdoulilah, je suis très contente. Même si j'ai rempli mon obligation quelques jours, alhamdoulilah, j'ai rempli mon obligation. C'est comme par exemple la salade. Alors, c'est quelque chose que je n'encourage pas du tout, mais. Je compare souvent ça à la prière. La prière également, c'est une obligation. Donc, on doit attendre d'être parfait. On doit attendre de la faire 5 fois par jour pour la faire. Non, reviens toujours vers Allah. Moi, c'est ce que je dis. Et c'est ce que je me dis à moi-même. Même si je ne suis pas au top de ma foi, reviens vers Allah. Reviens vers Allah. Même une prière, fais-la. T'es feignante, tu culpabilises. Franchement, c'est pas grave. On s'en fout là. Tu te lèves, tu prends tes ablutions, tu fais ta prière. Il n'y a pas de débat, tu vois. Et parce que, comme tu disais, au final, c'est que du gain pour nous. Allah, il n'a pas besoin de nous. Hein. C'est nous, on a besoin de lui. Et à partir du moment où tu réfléchis comme ça, dans toutes les obligations, ça, tout paraît logique.
Ouais, c'est un bel exemple, la prière. Et comme tu as dit, il y a beaucoup de personnes qui se disent non, je suis pas assez bien. Ah, je commets tel péché. Ah, je fais ça et tout. Ouais, mais non, tu vois. La prière, c'est le lien qu'il faut toujours garder avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le deuxième pilier de l'islam. Tu vois. Et finalement, par rapport au hijab, il y a des personnes aussi qui vont se dire je commets tel péché, je suis pas assez bien pour le porter, je le fais pas maintenant, parce qu'il y a ce ouest-ouest-là, tu vois. Mais effectivement, moi, je vois les choses comment, tu vois, je me dis, comment dire, tu vois, dans la vie, il y a espèce de. En fait, on se rend pas compte qu'il y a deux manières de penser. Il y a la manière de penser qui est je suis pas assez bien, je fais des péchés, tout ça, donc je ferais mieux d'enlever mon hijab, ou donc. Je ferais mieux de ne pas le mettre, ou donc je ferais mieux de même pas de pas faire de faire la prière. Alors qu'en fait, est-ce que tu crois du coup que le fait d'enlever le hijab ou de ne pas le mettre ou de ne pas prier, etc., etc., parce que tu commets le mal, est-ce que ça va te pousser à faire le bien, tu vois? Bah, en fait, non, ça te pousse encore plus dans cette voie-là. Alors que le fait de te dire, OK, je vais m'accrocher, tu vois, bec et ongles, je vais m'accrocher de mon mieux, je vais faire le maximum sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le hijab, avec la salat. Avec tu sais, ou d'autres œuvres, etc., je vais m'accrocher à ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça, bi'idhnillah, qui sera éventuellement une cause pour t'éloigner du négatif. Et en fait, tu es déjà en train de faire un pas vers Allah, en train de dire, Ya Allah, ok, certes, je fais ça va pas, mais Ya Allah, au moins je m'accroche, au moins je fais de mon mieux, au moins je fais mes prières, même si voilà, je ne les fais pas super bien et tout, mais je m'y accroche, je lâche pas. Et déjà, ça, c'est un pas que tu fais. Et déjà, ça, c'est pas le même chemin que j'abandonne tout. Parce que je commets négatif. Ça, c'est un truc dont je parlais en fait avec une personne récemment, tu vois. Ça me frustrait un peu parce qu'elle était en mode oui, bah non, voilà, elle me disait ma prière n'est pas assez bien, donc j'enlève mon voile, tu vois. J'étais là, mais en fait, non. J'étais là, mais là, c'est pas. Est-ce que le fait du coup d'enlever ton voile va t'aider à améliorer ta prière? Mais au contraire, tu vois, ça risque de te pousser à abandonner petit à petit les efforts et te dire, bah, de toute façon, à quoi bon, tu vois, il y a une espèce de fatalisme après de résignation, au lieu de te dire, je vais m'accrocher avec mon hijab, et en parallèle, je vais faire des doigts, et je vais faire mon maximum, je vais améliorer ma salat, et je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide, etc. Mais on va pas prendre le chemin inverse, quoi.
Ça. Mais tu sais que ça, c'est un problème récurrent, c'est que j'ai
Ah ouais?
remarqué, je sais pas toi, mais en général, les personnes qui portent le hijab déjà avec des ouest-ouest, c'est que chaque problème de leur vie vont ramener tout ça au hijab. Je sais pas comment t'expliquer. Dès qu'il se passe un truc mal, ah mais j'enlève mon hijab, ça y est. Alors que c'est des trucs qui ont absolument rien à voir. Par exemple, dans leur tête, elles se disent, moi je fais un pas vers Allah et j'ai des épreuves dans la vie. Oui, mais c'est comme ça. C'est pas parce que tu réponds à des obligations que tu n'auras pas d'épreuves. C'est-à-dire, en gros, pour moi, le hijab et la prière, par exemple, c'est de prendre ça comme toute autre obligation, c'est de prendre ça comme, disons, acquis. En fait, c'est le hijab, tu sais, je le vois comme quoi? C'est comme ça la réflexion que je me suis donnée et j'invite celles qui le portent ou qui veulent le porter. De se dire que le hijab, dites-vous que c'est comme un organe de votre corps. Est-ce qu'un organe, tu peux l'enlever comme ça? Est-ce que ton bras, tu peux l'enlever comme ça? Est-ce que tu peux t'arracher un œil? Eh bien, le hijab, faut le voir comme ça. C'est-à-dire, eh bien, si tu doutes, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, ça peut intéresser. La vidéo, c'est Je veux retirer mon voile.
Ouais,
Et
j'ai
j'avais
vu.
appelé des copines et j'ai donné plein de conseils par rapport à ça. Et c'est des conseils que moi-même, j'écoute vraiment avec attention. C'est vraiment de voir le hijab comme un organe et de se dire que c'est quelque chose que tu vas garder quoi qu'il en soit. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que, comme tu disais, l'enlever, c'est pas ça qui va te permettre d'évoluer, en tout cas spirituellement. Et on sait très bien la finalité au final de ce monde. Voilà, c'est pas de décrocher, je sais pas, le meilleur job, le meilleur diplôme, le meilleur quoi que ce soit, être la plus belle de France. Enfin, au final, voilà, ce n'est que de futilité. C'est de se dire, là, mon hijab, là. Est-ce qu'il me sert dans ma spiritualité? Oui ou non? Oui, let's go. Non, non, c'est, tu sais, c'est censé être super mécanique, mais je sais que c'est plus difficile que ça. Hein. On est des humains qui sont éprouvés, qui sont jugés hein, sur ça. Mais voilà, en tout cas, c'est des petits conseils que je donne. Si ça peut aider quelques-unes, en tout cas, c'est la réflexion que je me fais. Par exemple, il y a encore un an, hein, je voulais l'enlever, je me souviens. C'était notamment bah, par rapport à la beauté, en fait. C'est frustrant, tu sais. Tu vas en vacances, tu vois, des filles, elles sont au top. Toi, t'es comme ça avec ton voile, t'as chaud. Et franchement, genre, tu sais, ah, c'est trop frustrant. Mais c'est ça, après, tu te dis, ah, c'est assez éphémère. C'est éphémère, ça va aller. T'inquiète, souffle un bon coup. Ça va aller. Non, je comprends que ce soit difficile, mais en tout cas, qu'Allah nous facilite, mes petites choux.
Amine, mais c'est merci, merci de partager ça avec nous.
De
Parce que,
rien.
ouais, franchement, merci. Parce que je me dis peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui le portent et qui, elles aussi, quand elles sont en vacances et que, voilà, tu vois, et qu'il y a des moments comme ça où elles ont peut-être cette pensée-là et tout. Et le fait de se dire, bah, en fait, il y a d'autres personnes, quoi, qui pensent ça et qui, alhamdoulilah, elles arrivent à le garder. Et je pense que c'est les moments où ta récompense est encore plus grande. Parce que là, tu fais encore plus le sacrifice et tu en as encore plus conscience et tu décides. Tu choisis toi de le garder pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vraiment 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 qu'Allah vous récompense. Moi ce que je faisais à l'époque et ce que ma mère me faisait aussi, parce que ma mère était très très coquette. Ma mère elle a porté le hijab assez tard, enfin quand je dis tard elle l'a porté je crois fin du lycée début quand elle commençait la fac, un truc comme ça. Et ma mère était très coquette, enfin tu vois je vois ses photos et tout de l'époque, mashallah, vraiment très jolie, prenait soin d'elle, tout ça, elle aimait bien s'habiller et tout, c'était au Maroc hein, tu vois, mais elle était très voilà 631 et tout. Et ouais, c'était dur de décider de porter le hijab. En plus, à l'époque, tu sais, aujourd'hui, hein, on a des beaux ensembles, on a des belles tenues, on a des beaux hijabs. Franchement, il y
Oui.
a moyen d'être classe, tu vois, quoi. C'est pas. Alors qu'à l'ancienne, franchement, à l'époque, c'était vraiment. C'était des robes, voilà, quoi, tu vois.
Ben moi,
C'était
sacrifice.
un vrai sacrifice, grave. Et Miskina, elle me disait, elle mettait ses belles tenues, tu sais, ses petites jupes un peu courtes et tout. Enfin, pas trop courtes, hein, mais genre au-dessus du genou. Mais bon, voilà, elle mettait ses petites jupes, elle mettait ses petits hauts, elle mettait ses trucs en dessous. Et elle mettait sa robe, sa capa patate par-dessus, tu vois. Et après, et son neuf, ça faisait plaisir à son neuf. Il y a des petites astuces, tu vois, comme ça. Non, voilà, il y a moyen quand même, je pense, aujourd'hui d'être élégante, de se faire plaisir, de se sentir belle. Et surtout, moi, ce que j'ai toujours fait dans mon adolescence et tout, quand je me trouvais très, 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 très moche avec mon hijab, ou pas forcément avec le hijab, mais moi, je me trouvais très moche avec, tu sais, au lycée et tout ça. Je raconte ça dans un des épisodes de podcast que j'ai enregistré sur ma story time hijab. Quand j'étais au lycée, au collège, je mettais des bandeaux parce qu'on me laissait pas porter le voile, donc je mettais des bandeaux, des bandanas et tout. Et en fait, ça faisait moche. Vraiment, je n'aimais pas du tout. Mais je me disais, c'est pas grave, je sacrifie ma beauté, c'est pas grave. Et par contre, quand j'ai rentré chez moi, et ben voilà, je faisais des brushings, voilà, je mettais des belles tenues, je maquillais, je me faisais vraiment belle et je me disais, voilà, c'est bon, je suis jolie, je suis bien et tout. Et ça m'aidait à tenir, ça
Fait du
m'aidait à
bien.
tenir. Ouais, c'est ça. T'en as besoin un peu des fois pour faire plaisir à ton os. Ok, bah écoute, super intéressant cette partie. Merci hein, d'avoir partagé avec nous ton expérience, Assia.
Plaisir.
Et allez, avant de terminer, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais avant de terminer. Ah, mais ouais, non, je crois qu'on va parler. J'avais envie de parler du. Bah allez, on va quand même s'accorder 5 petites minutes pour parler de ça. Comment t'as rencontré ton chéri? De parler un peu de la rencontre avec ton mari et
Oui.
surtout. Comment t'as su que c'était lui le bon, sachant que vous êtes mariée jeune, du coup, tu t'es mariée à 22 ans, t'as fait ton halal à 22 ans.
À 22 ans, c'est ça, du coup.
Ouais, c'est jeune, mashallah. Et comment tu l'as rencontré, comment t'as senti que c'était lui et pas un autre, tu vois. Et est-ce que t'as fait des causes particulières ou pas? Parce que c'est une question que les célibataires se posent souvent, genre, c'est quoi, comment on fait les causes et
Oui.
tout
Oui, bien sûr. Alors, ben, je vais raconter tout ça avec des petits conseils en accompagnement. Donc, comment je l'ai rencontré? Alors, vous allez, ben, femme des réseaux qui rencontre son homme où, hein, soyons tous choqués, Twitter, voilà. Donc, je l'ai rencontré, c'était une des premières personnes que je parlais sur mes réseaux sociaux. J'avais 16 ans. Ouais, ça date, c'était en 2016. Et en fait, c'était l'une des premières personnes avec qui j'ai échangé sur les réseaux. Mais en vérité, je parlais avec beaucoup de personnes, moi, sur les réseaux, avant que je sois connue et que maintenant je suis un peu plus restreinte. Mais quand je n'étais pas du tout connue ou quoi, je parlais à tout le monde. Hein. En Twitter, c'est, je ne sais pas si tu connais, mais tu vois, c'est un réseau social où vraiment tu échanges avec plein d'inconnus. Hein. C'est, voilà. Et dis-toi, il n'avait même pas de photo de profil. Moi, j'en avais pas non plus. Mais on se parlait comme ça et il y a eu un truc. Et vraiment qui n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai 23 ans, on s'est connus à 16 ans sur les réseaux. C'est une alchimie, moi j'appelle ça réellement une alchimie, qui n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Donc, du coup, je l'ai connu là. Ensuite, on a grandi. Mais voilà, sans arrière-pensée, hein, il n'y avait rien de voilà. Après, on a eu une petite coupure où on était, je crois, on ne se suivait plus sur les réseaux, je ne sais plus pourquoi. Je crois que j'avais quitté Twitter, ça m'avait saoulé un petit peu pendant un an et demi. J'ai repris Twitter, il est revenu, il m'a envoyé un petit message. J'avais quel âge à cette époque-là? J'avais ben, 19 ou 20 ans. Non, non, en tout cas, c'était avant que je sois connue. Donc, c'était sûrement à 18 ans. Ouais, 18 ans. On a repris contact, etc. J'avais enfin vu sa tête. Je voyais enfin une quoi il ressemblait. Il savait à quoi je ressemblais un peu parce que je m'affichais un peu plus sur les réseaux. Il a vu ma transition aussi quand j'ai commencé à porter le voile. Il a vu aussi mon ascension sur les réseaux sociaux parce que je n'étais pas du tout connue. Hein, donc, mais il était toujours en contact. Enfin, on était toujours en contact. Et puis, il m'a fait une petite révélation et il m'a dit, Asia, c'est vrai que pourquoi pas le mariage finalement. Et bah, j'avoue que, en fait, il faut savoir que à la base, il est anti-mariage. Ça veut dire, lui, il ne se voyait pas marié à partir de 30 ans. Vraiment, pour lui, le mariage, c'était voilà. Et moi non plus. Moi, grosse phobie du mariage. J'ai entendu mille et une histoires, je ne sais pas toi, mais tu sais, les histoires. Ah bon, après, en général, les bonnes histoires, on ne les entend pas. Les gens préfèrent se préserver et il faut les BG, préservez-vous. Mais j'entends que des mauvaises histoires. L'homme qui va voir l'autre, la femme qui va voir l'autre, les deux qui
Ah
sont
là là.
dans l'homme qui enferme sa femme en prison chez elle, cette sorte aussi un peu de prison dorée, tu sais, l'homme avec beaucoup d'argent, ok, qui va te mettre bien, mais une fois que t'es à la maison, t'es malheureuse. Bref, j'ai pas envie de pleurer comme une madeleine jusqu'à je ne sais pas quel âge. Moi, je suis bien chez papa-maman, hein. Qu'est-ce que je vais faire
J'avoue.
à... Tu sais, enfin, franchement, qu'est-ce que je vais faire à faire la vaisselle, à me casser la tête à... Tu sais, enfin, mes parents, ils m'ont traité comme une princesse, en fait. Tu vois, qu'est-ce qu'une princesse va sortir de son château? Voilà. Et puis, bref. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, on va réfléchir à la proposition. Donc, bah, en attendant, le temps, il passe, on grandit. Moi, j'ai mes projets, il a ses projets. Et quand il m'en a parlé sérieusement, on est arrivé à un moment où c'est... Où moi, limite, j'étais plus engagée que lui. Dans le processus. En fait, il y a eu un retournement de situation où c'est plutôt moi qui a dit « Non, j'avoue, c'est une bonne idée. Non, c'est trop tard. Non, tu reviens. Tu reviens. » Et après, lui aussi, il s'est dit « Non, franchement, il y a... Let's go. On se lance. » Même si nous deux, j'avoue qu'on... En vrai, on ne savait pas trop où aller. Enfin, dans le sens où, tu vois, nous, le mariage, on le voit comme une... comme un projet de vie. Voilà. C'est un projet de vie. On ne veut pas prendre ça à la légère. On sait que c'est important parce que si on veut se fréquenter, si on veut se parler, si on veut se voir, si on veut faire des projets ensemble, le mariage est obligatoire. Et on s'aime aussi. Ça, c'est hyper important. L'amour, bref, je ne vais pas trop le décrire parce que je sais que, voilà, je pense un peu à toutes les femmes, mais voilà, je ne veux pas trop en parler. Mais voilà, alhamdoulilah, voilà, ça va. Disons que ça se passe bien. Et on s'est dit, bah, allez, on va se marier. Donc, on a pris la décision quand? 2000, courant 2000, non, 2022, c'est ça, juste avant Ramadan 2022, où on s'est dit, bon, on va parler à nos parents et on va voir ce qu'il en est. Mais tu sais quoi? Pendant toute cette durée-là, entre le moment où on a parlé de mariage et le vrai jour du mariage, tu sais que j'ai douté jusqu'à la veille du
Ouais.
projet. J'ai douté jusqu'à... Je voulais tout annuler. Vraiment.
Ouais.
Je te le dis sincèrement. Pourquoi? Parce que j'ai eu une peur, une panique qui est venue en moi. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais comment te dire? Eh bien, là, c'était le même processus que le voile. J'y suis allée aveuglément. Ça veut dire que je ne savais pas en vrai dans quoi je m'embarquais. Même si j'ai parlé quand même avec la personne. Donc, je savais en vrai... que c'était pas comment t'expliquer. On sait jamais qu'il y a une personne, tu vois, surtout sur les réseaux sociaux, tu vois. Mais je sentais que c'était une personne très sincère et très gentille, très aimable, avec beaucoup de qualités. Donc je me suis lancée, je vous avoue quand même à l'aveuglette, hein, parce que je vais le dire, hein, aux filles qui nous suivent, c'est pas parce que vous parlez à un homme depuis des années ou que voilà, vous voyez de loin ou quoi que ce soit, que vous êtes sûr que vous allez bien vivre avec sous un toit. Genre, ça a absolument rien à voir. Enfin, je veux dire ça parce que là, maintenant, étant mariée, tu sais, je me dis, le nombre de ouest-ouest qu'on a avant, tu sais, une fois qu'on a passé cette étape de l'acquis, en fait, je te dis, mais, tu sais, maintenant, je regarde les jeunes comme si j'étais une ancienne, et je dis, mais waouh, Shaitan, il est, je dis pas qu'il est fort, mais à quel point il nous influence, tu vois. En fait, non, ça sert à rien de se marier, attends encore un petit peu, peut-être que tu vas connaître un peu mieux la personne, et tu vois, tout en restant quand même soit dans le haram, soit. Franchement, quand j'y pense, vraiment, ça sert à rien. Bref. Et puis après, prière de consultation, la classique. Je l'ai fait, franchement, je l'ai fait, franchement, facilement, je pense, une dizaine de fois. Dizaine de fois pour la même chose. J'ai
Non, mais
pleuré, hein, laisse tomber, hein, les larmes, ça coulait à flot. Parce que C'est pas que je doutais, mais j'étais pas certaine. Je savais que je faisais quand même les choses bien, mais j'étais pas certaine. Donc pour moi, je laissais ça
Un
à Allah.
résultat.
Encore une fois, c'est quelque chose de bien. Alors je veux vraiment qu'Allah me facilite les choses. Par contre, c'est quelque chose de mauvais, mais je veux franchement, mais qu'Allah me. J'ai dit, mais vraiment qu'il mette des obstacles et vraiment que je sois même répugnée de la personne, tu vois, pour. Voilà, pour pas me. Tout simplement. Et puis, alhamdoulilah, du coup, on s'est mariés, on a fait le halal dans un premier temps, donc un mariage religieux. Il y avait seulement nos propres, tu sais, familles, genre le petit cercle, le noyau, et plus les témoins. Ça s'est super passé, alhamdoulilah. D'ailleurs, je conseille, faites des mini halal, ça a de faire des gros trucs. Bon, le mariage, c'est un peu plus gros pour nous, mais le halal, voilà. Mais voilà, moi, personnellement, pour ça, c'est vrai que beaucoup, je vais dire honnêtement, tawakkul, parce que c'est pas rien hein, de partager sa vie, son
Ah
entier,
ouais.
tu sais, et faire des sacrifices, en fait. Tu réfléchis pas pour un, tu réfléchis pour deux, enfin, tout ce genre de choses. Et voilà, c'est pas rien. Et alhamdoulilah, ben, je regrette vraiment pas, tu vois, de
Très
m'être
bien.
mariée aussi jeune. D'ailleurs, j'ai même fait carrément une vidéo dessus. Alors, ça, vraiment, c'est. Mais encore une fois, tu sais, je m'épate parce que dans ma tête, j'allais jamais me dire que j'allais me marier jeune, moi. Tu sais que ma mère, je lui disais. Des fois, elle me parlait de certains hommes, elle me disait « Ah, oh, ça serait bien que tu te maries avec lui. Ah, oh, ça serait bien. » Tu sais, elle essayait de me faire des petites passes. On lui disait « Ah, maman, maman, maman. » Alors, je t'arrête tout de suite.
Cherche pas.
De mariage. Non, je ne veux pas. Je, vraiment. Et non, subhanallah, c'est pour ça que je vais pas te moi-même. Léna, j'ai maintenant, je fais une vidéo en disant « Mariez-vous jeune, les gars, c'est génial. »
T'aurais pas cru. Non, mais ton histoire, elle est intéressante. Déjà, comme quoi c'est possible que. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir le. Enfin, moi, En tout cas, je trouve ça intéressant que dans ton parcours à toi, tu l'aies rencontré via les réseaux sociaux. Et alhamdoulilah, ça a mené au mariage. Donc, en fait, c'est possible finalement de rencontrer ton futur à travers un réseau social comme Twitter, tu vois. Et malgré tout, tu vois, de faire les choses bien, c'est pas en mode. Voilà, c'est pas en mode. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, il y a aussi beaucoup de. Je le dis parce que je pense que dans cet épisode, il y a beaucoup de jeunes filles qui vont nous écouter. Il faut aussi faire très, très attention, puisque malheureusement, il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont là sur les réseaux, etc., à chercher à choper des filles, tu vois, pas du tout dans des bonnes intentions. Voilà, et qui voilà. Donc, toujours faire les choses bien, toujours faire les choses dans l'intention du mariage. Très, très vite, essayer de faire une muqabala, essayer de faire, tu vois, une rencontre officielle, etc. Parce qu'en fait, c'est là où ça va faire le tri, hein. Tu vois, si la personne vient et que tout de suite, voilà, elle vient et au-delà, elle sort tout de suite des réseaux sociaux, entre guillemets, tu vois, mais voilà, alors, elle accepte de rencontrer dans un cadre avec un mahram, etc. etc. Tu sais que c'est une personne qui est sérieuse et qui veut vraiment le mariage plutôt qu'un chatter, tu vois, qui va juste vouloir, voilà, quoi. Donc, voilà. Mais en tout cas, comme quoi, oui, yes, c'est possible. Et ouais, et
Ouais,
puis
mais
là,
franchement,
quoi. Ouais.
excuse-moi de te couper, mais tu fais très bien de faire de la prévention parce que je vais pas dire que là c'est un cas rare, parce qu'il y en a pas mal aussi qui sont mariés via une rencontre sur les réseaux sociaux, mais il y a tellement, tellement de personnes mal intentionnées sur les réseaux sociaux. J'en ai fait des frais, hein. Enfin, il m'est jamais rien arrivé, mais quand j'ai su la finalité de certaines conversations, honnêtement, ça laisse à désirer, hein. Enfin, faut faire vraiment très attention, faut être très ferme, vraiment, les filles. Soyez ferme. Moi, je pensais directement à mon père, en fait. Enfin, je sais pas. Après, Allah il sait, genre, je veux pas me sentir, comment dire, au-dessus, parce qu'alhamdoulilah, j'ai pas succombé à tout ça. Mais voilà, moi, avec mon père, il y a toutes les questions d'honneur, les questions de tout ça. Et honnêtement, je voulais aussi rendre fier à mon père, tu vois. Qu'il sache que ta fille, t'inquiète, elle gère. Elle gère. Et pareil pour ma mère. Voilà, elle a éduqué une fille. Enfin, mes parents, les deux m'ont éduquée parce que tout part aussi d'une éducation, hein. Enfin, laisser son enfant, je pense, aller sur les réseaux sociaux sans leur donner les outils, ça peut être très dangereux également.
Ouais, c'est vrai. Et ouais, et puis ouais, leur donner les outils, leur parler des dangers des réseaux sociaux. Et puis, semer la graine de la crainte d'Allah, tu vois, parce que c'est ça aussi qui préserve, tu vois, c'est de se dire, Allah, il est là à chaque instant, donc faisons les choses de manière alignée à sa satisfaction, de manière à lui plaire et toujours garder ça en tête.
Totalement.
En tout cas, alhamdoulilah pour toi, je suis très contente. Et
Merci.
qu'Allah apporte un homme pieux à toutes les personnes là, qui écoutent le podcast, un homme qui soit pieux, qui soit comme elle
Amin.
le souhaite, tu vois, avec qui elle sera heureuse, fait de dunya ou fil akhira. C'est pas évident le mariage. Enfin voilà quoi, je sais que c'est quand même quelque chose qui revient, tu vois, de comment trouver le mari, etc. Je crois que j'ai fait un épisode de podcast où je raconte ma story time et tout, tu vois, sur mon mariage avec, je donne aussi un autre où je donne des conseils, je crois, vous pourrez l'écouter. En tout
Et
cas, si
Omaïma, excuse-moi de te couper, tu sais qu'avant de mariage, j'avais écouté justement ce podcast-là.
Ah ouais?
Oui, où tu donnais des conseils justement sur, je sais plus c'était quoi la question un peu rhétorique de ton podcast, je sais plus t'avais posé quoi comme question? Comment trouver son mari, je sais pas ce que c'était exactement, mais j'avais écouté et parce que j'étais en total doute, hein, et j'étais tombée sur ce podcast.
Mmh.
Bref, subhanallah.
Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit après, ouais, tu m'avais dit que
Ouais.
ça avait aidé.
Vraiment, ça m'a
Après,
réellement
ouais.
aidé.
Alhamdoulilah. Mais ce qui est bien, c'est que, après, je pense que les doutes et tout, c'est normal, on a peur, en fait, on se lance dans l'inconnu. Et comme tu as dit, en vrai, tu sais pas où est-ce que tu mets les pieds tant que tu t'es pas mariée. Hein. C'est après le mariage que tu
Ouais.
vois réellement ce qu'il en est. Et donc, c'est pour ça que c'est tellement important de faire ça, Sirala, de faire doua. Et toi, c'est ce que tu as fait, mashallah. Tu vois, t'as fait ça à Sirara, t'as fait dua, t'as pleuré, voilà, t'avais conscience en fait que ça pouvait, enfin voilà quoi, tu vois, que c'était vraiment important. T'es pas partie en mode insouciante, oh la vie est belle, oh.
Ah oui, non, pas du tout, ouais.
Et voilà, et en mode ça va être un conte de fées et tout. Non, t'avais quand même quelques notions de la réalité. Bah, alhamdoulilah, vraiment qu'Allah vous comble de bonheur, qu'Allah vous comble de ses bienfaits, ici-bas dans
Merci.
l'au-delà.
Écoute, vous aussi, hein. Non, vraiment,
Amine.
qu'Allah vous préserve réellement.
Amine, merci beaucoup, Assia. On a besoin de toi. En tout cas, merci, un grand merci à toi, Assia, pour cette belle soirée, parce que on termine le podcast assez tard. C'est les vacances,
Et si vous
j'ai les filles avec
saviez.
moi. Non, mais les gens ne savent pas, ils savent pas. Il vaut mieux pas qu'ils sachent.
En tout cas,
Non,
vraiment,
mais
c'était un
voilà.
honneur. Réellement, je te remercie encore une fois. C'est un honneur de faire partie de cette histoire des épisodes de tes podcasts. Et honnêtement, je le redis, mais tu es réellement une source d'inspiration pour moi et je pense pour beaucoup. Donc, qu'Allah te récompense pour ça parce que bah, tu permets toi aussi à ton tour de porter la voix de certaines femmes. Donc, ça fait plaisir.
Merci Asia, merci, ça me touche beaucoup, qu'Allah te préserve.
Amen.
Et ouais, merci encore une fois d'avoir pris de ton temps, de ton précieux temps et d'avoir transmis tes beaux messages à travers ce podcast. Merci en fait, parce que tu as partagé plein d'anecdotes perso et tout, c'est très généreux de ta part, je te remercie pour ça. Et aux auditeurs, bah, je vous dis à jeudi prochain, Inch'Allah, pour le prochain épisode. Salam alaikum.